RFI 21h, à Paris 20h, en temps universel.
Charlotte de Rouen.
Bonsoir à toutes et à tous. Nous ne sommes pas seuls, déclaration de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui a remercié les Européens à Bruxelles. Lors du sommet extraordinaire qui se tenait ce jeudi, les 27 ont donné leur feu vert à un plan pour renforcer la défense européenne, mais sur le terrain, en Ukraine, les combats se poursuivent. Pour financer l'aide militaire à l'Ukraine, quelle solution en Europe? Le débat est relancé sur l'utilisation des avoirs russes gelés depuis 3 ans en France. La classe politique reste partagée. Au peuple de Gaza, si vous gardez tous les otages, vous êtes mort. Déclaration de Donald Trump, le président américain, qui parle de dernier avertissement. Mais en coulisses, Washington a ouvert un canal de communication pour négocier directement avec le Hamas pour libérer en priorité les otages israélo-américains, ce qui agace les autorités israéliennes. Ce feu vert des 27 au plan de Bruxelles pour muscler la défense européenne, baptisé Réarmer l'Europe, il vise à mobiliser quelque 800 milliards d'euros pour renforcer les capacités de défense du vieux continent. Face à la menace russe et au désengagement américain, les lignes bougent petit à petit. En attendant, en Ukraine, les combats au sol et les bombardements continuent. Hier soir, l'armée russe a mené de nouvelles frappes. Emmanuel Chaz.
Un missile russe s'est abattu contre un hôtel la nuit dernière à Kriviri, la ville natale de Volodymyr Zelensky, une ville industrielle à environ 70 km de la ligne de front et une ville régulièrement frappée par les missiles et les drones russes. La frappe d'hier a fait au moins 4 morts et 32 blessés, dont un enfant. La moitié des blessés sont dans un état grave. Les dommages matériels sont également conséquents et lors de la frappe, des travailleurs humanitaires internationaux se trouvaient sur place selon le président ukrainien. La Russie est coutumière de ce genre de frappe et ici en Ukraine, on s'inquiète de la suspension de l'aide militaire américaine car elle permet non seulement aux soldats ukrainiens de tenir sur la ligne de front mais aussi à la défense aérienne ukrainienne de contrer de telles frappes qui sont quotidiennes. La nuit dernière, c'était 2 missiles et 112 drones kamikazes qui étaient lancés contre plusieurs régions du pays et si les systèmes de défense de type Patriot livrés par les États-Unis ne sont plus réapprovisionnés, cela risque d'exposer davantage la population ukrainienne à ses frappes. Moins d'interceptions signifiera des frappes plus meurtrières dont les premières victimes seront les civils ukrainiens. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Nous ne sommes pas seuls, déclaration de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui a remercié les Européens alors que les États-Unis gèlent leur aide militaire à Kiev. C'est dans ce contexte que le débat sur le gel des avoirs russes est relancé en Europe. Gelé depuis 3 ans, il représente plus de 350 milliards d'euros et pourrait servir à réarmer l'Ukraine. En France, la classe politique est divisée sur le sujet, Charlotte Urien-Tomaka.
L'idée divise, mais prend chaque jour de l'ampleur. Si le gouvernement de François Bayrou est opposé à l'idée d'utiliser les avoirs russes, les députés du socle commun, eux, sont pour. Prisca Thévenot, députée Ensemble pour la République.
Ce ne sont pas aux Français de payer, ce ne sont pas aux Ukrainiens de payer, ce ne sont pas aux Européens de payer. La charge de cette guerre doit être portée uniquement par l'agresseur qui est Vladimir Poutine et donc au travers des avoirs russes.
Le PS et Europe Écologie Les Verts y sont également favorables. Léa Balage-El-Mariki, députée ELV, propose d'ailleurs une résolution en ce sens.
Non seulement j'y suis favorable, mais j'ai aussi proposé à l'ensemble des députés de porter une proposition de résolution pour demander au gouvernement d'être aussi allant sur cette question. C'est une question de justice sociale.
Seul à soutenir le gouvernement, ses adversaires les plus déterminés, LFI et le RN, pour Gaëtan Dussausset, député Rassemblement National, c'est contraire au droit international.
Ça pourrait créer un précédent qui pourrait poser ensuite énormément de problèmes et dans la quête de futurs investisseurs étrangers et aussi dans les prochains conflits militaires si malheureusement il y en a d'autres qui arrivent à l'avenir.
Exactement la même crainte qu'exprime le gouvernement Bayrou. Les positions devraient se clarifier encore le 12 mars, date de la discussion à l'Assemblée d'une proposition de résolution du groupe Liotte demandant la saisie par l'UE des avoirs russes.
Charlotte Urien-Tomaka, la fusée européenne Ariane 6 a placé en orbite un satellite militaire d'observation pour le compte de la France. En Europe, seule la France et l'Italie disposent de satellites militaires alors que les États-Unis en comptent des centaines. Ce lancement revêt donc un caractère symbolique fort. Cette mission scelle la souveraineté retrouvée de l'Europe dans un contexte de rapprochement entre les États-Unis et la Russie. RFI 15h05 à Washington, 22h05 à Gaza. Cet ultimatum de Donald Trump ce jeudi au peuple de Gaza. Si vous gardez les otages, vous êtes tous morts. Voilà ce qu'a déclaré le président américain. Le Hamas condamne ces menaces de mort au peuple de Gaza et dénonce une position qui encourage Israël à se soustraire à l'accord de trêve. Donald Trump menace, mais en coulisses, les États-Unis ont ouvert un canal de communication direct pour négocier avec le mouvement. C'est le site d'information américain Axios qui le révèle. C'est une première depuis près de 30 ans et ça suscite aussi l'inquiétude du gouvernement israélien. Sami Boukhalifa.
Washington a classé le Hamas organisation terroriste en 1997. Depuis cette date, les Américains ne parlent plus au mouvement islamiste palestinien. Changement de méthode, l'administration Trump renoue le dialogue et négocie désormais directement en priorité la libération des otages israélo-américains détenus par le Hamas. Gershon Baskin est lui-même ancien négociateur israélien. Il salue l'initiative américaine.
Les négociations directes sont une bonne chose, mais c'était tabou jusqu'à présent. Donc c'est bien que les États-Unis et briser ce tabou. Mais si les États-Unis négocient uniquement pour libérer les otages binationaux américains, alors là, c'est mauvais signe. Les otages sont otages d'abord parce qu'ils sont israéliens.
Selon le site d'information Axios, ces discussions entre Washington et le Hamas viseraient dans un second temps à faire libérer tous les otages et parvenir à une trêve à long terme à Gaza. Les autorités israéliennes, agacées par ces négociations, se sentent mises à l'écart, rapporte la presse israélienne. Pourtant, Israël ne proteste pas officiellement. Gershon Baskin.
Benjamin Netanyahu ne peut rien dire à Trump. Si Trump dit qu'il envoie son négociateur pour parler au Hamas, alors Netanyahu n'a pas son mot à dire. Celui qui a les cartes en main aujourd'hui, c'est Donald Trump. C'est lui qui décide s'il y a oui ou non un accord pour la libération des otages.
Le bureau du Premier ministre israélien a publié un communiqué très laconique. Israël a fait part aux États-Unis de sa position concernant des pourparlers directs avec le Hamas. Sami Bourkifa, Jérusalem, RFI.
Dans la guerre commerciale entre les États-Unis et le Mexique, Donald Trump a de nouveau reculé ce jeudi, annonçant que l'immense majorité des produits mexicains ne sont plus concernés jusqu'au 2 avril par les taxes de 25% en vigueur depuis le début de la semaine. Il s'agit là du deuxième recul en moins de 24 heures de la part du président américain qui avait déjà accordé une pause d'un mois aux pièces automobiles et voitures sous la pression des constructeurs américains inquiets de l'impact sur leur chaîne d'approvisionnement. Donald Trump qui vient aussi d'annoncer l'élargissement de l'exemption douanière à certains produits canadiens. La Banque Centrale Européenne abaisse son taux directeur de 25 points à 2,5%, une baisse prudente alors que l'activité de la zone euro reste faible et que l'imminence de la hausse des taux de droits de douane américains inquiète Agnieszka Kumor.
C'est la sixième baisse des taux depuis juin 2024. La fin du cycle serait-elle en vue? Trop tôt pour le dire, rétorque Christine Lagarde, la patronne de la BCE. Face à une situation qui change constamment, les gardiens de l'euro naviguent à vue. Le risque d'une guerre commerciale avec les États-Unis provoque un ralentissement des exportations. Les entreprises limitent leurs investissements, l'activité stagne. Résultat, la croissance du PIB dans la zone euro devrait difficilement atteindre 0,9% en 2025, alors que l'inflation pourrait augmenter à cause notamment de la hausse des prix de l'énergie. Mais ce sont les hausses des dépenses de défense, y compris en Allemagne, qui a décidé d'augmenter sa dette publique, qui pourraient doper la croissance dans l'Union européenne. Quid de la suite? La BCE va-t-elle poursuivre ses baisses ou appuyer sur pause? Ces décisions dépendront de l'évolution du conflit en Ukraine, l'Ukraine qui ne peut désormais plus compter sur l'aide américaine.
Agnieszka Kumor. Le pape François remercie les fidèles d'une voix chevrotante dans un court message audio diffusé il y a quelques minutes par le Vatican. Je vous remercie de tout cœur pour les prières que vous faites pour ma santé. Je vous accompagne d'ici, a dit le souverain pontife. Que Dieu vous bénisse et que la Vierge prenne soin de vous. Ce sont ces mots ce soir. On y reviendra dans nos prochaines éditions. Le code civil personnel de Napoléon vendu 395 000 euros aux enchères. Cet exemplaire était resté au sein d'une même famille depuis la chute de l'Empire. Il s'agit de descendants d'un fidèle de Napoléon, Étienne Charvet, régisseur du château de Saint-Cloud près de Paris. C'est là que cet exemplaire fut laissé quand l'empereur déchu a été exilé sur l'île d'Elbe. Lorsqu'il prend le pouvoir en 1799 en France, Napoléon avait fait de l'élaboration d'un code civil unique l'une de ses priorités. Merci de votre fidélité à RFI, 21h et presque 10 minutes à Paris.